tout simplement. Vous avez parlé beaucoup d'autonomie. J'aimerais vous savoir si c'était dans les discours des ménages, enfin des interlocuteurs, si c'est des choses qui, enfin, c'est une notion qui est venue spontanément, ou quelque chose qui est venu à travers les questions, parce que l'autonomie c'est une chose, il y a aussi la volonté d'avoir une énergie et des modes de consommation, peut-être la nature, en disant on a moins de gaz à effet de serre, etc. Il y a aussi bon, des aspects économiques liés à la revente. En tout cas, voilà, je voulais savoir d'où vient cette mise en avant de la notion d'autonomie, savoir si ça vient du terrain ou plutôt dans les questionnements que vous avez pu formuler.
Merci pour cette question. Alors, à l'échelle individuelle,
pour compléter, en termes d'aide institutionnelle, gouvernementale, peut-être que j'ai zappé le passage, je vais en parler, mais est-ce qu'il y a des choses, parce qu'on peut très bien imaginer, enfin moi je connais le cas, où c'est un agriculteur qui a installé des panneaux solaires pour faire une entrée d'argent, parce qu'il en a moins par son métier, donc du coup ça lui permet de compenser une situation économique compliquée.
Bien sûr. Directement à cette question-là. Oui, les systèmes institutionnels d'aide ont une influence certaine sur ces projets locaux, mais là encore, pouvoir qui tendent à diminuer ou qui ne sont pas pérennes dans le temps, c'est même à l'échelle communale, des communes ont pu bénéficier d'aide parce qu'elles étaient pionnières à un certain temps de leur projet, et puis ça n'a pas empêché que ces aides ayant ensuite disparu, elles aient continué les projets et continué de mettre en place des installations d'énergie renouvelable. Donc, bien sûr que les systèmes d'aide, de financement de politique publique aident, parce qu'ils sont des arguments complémentaires, mais je dirais qu'ils ne sont pas la seule explication de ce choix technique. Mais dans le monde agricole, il est certain, je vous disais, que le fait d'avoir un revenu est à long terme. Dans ces politiques publiques, le prix de l'énergie est garanti 20 ans. Ça va tendre à disparaître, je pense, mais jusque-là, c'était le cas. Donc 20 ans, pour un agriculteur, ça peut permettre de se projeter, de se dire dans 10 ans, quand j'aurai arrêté mon activité, j'aurai un petit complément de retraite. Et c'est vraiment pas un argument négligeable, tout à fait. Pour ce qui est de l'autonomie, alors, ce qui était intéressant, c'est qu'à l'échelle individuelle, en France, la poursuite de l'autonomie était très forte parmi les personnes que j'avais rencontrées. On est aussi dans des temporalités plus longues. Il y avait vraiment la volonté de se débrancher du système technique, électrique, et une vraie revendication anti-nucléaire. Et donc, poursuivre une autonomie, c'était se débrancher d'un système qu'on ne cautionne pas et d'une politique énergétique qu'on ne cautionne pas. À l'échelle collective, je m'attendais à trouver en tout cas une poursuite de l'autonomie, et pas du tout. Mais pas du tout, c'est-à-dire que quand je demandais aux habitants, mais alors, le projet d'autonomie énergétique commençait à arriver, dans toutes ces communes, on me dit, ah, mais ça n'a jamais été le projet. Ça n'a jamais été ce qu'on a cherché. C'est arrivé chemin faisant, en fait. Un premier projet d'énergie renouvelable en a amené un autre, et in fine, la commune est devenue autonome. Mais ça n'a jamais été une finalité poursuivie. Encore une fois, pour ces communes qui étaient plutôt pionnières, aujourd'hui, on va entendre des communes qui se positionnent sur l'autonomie énergétique, qui disent « on poursuit un projet d'autonomie énergétique ». Mais là, ce n'était pas le cas. Ce qui était poursuivi, finalement, c'est plutôt une autonomie politique, décisionnelle, de choisir, de développer des projets de territoire, mais aussi de choisir une réappropriation de l'énergie, mais ça aurait pu être l'eau, ça aurait pu être un autre objet, en fait. Je trouvais que l'énergie était un vecteur, mais qui aurait pu passer par d'autres. Et ce qui est plus en jeu, oui, c'est plutôt une autonomie politique, décisionnelle, un processus d'autonomisation où on se réapproprie ces objets comparables et des biens communs, l'eau, l'énergie, et où on reprend un peu la main sur ce qui advient, sur le développement de ces utilities, de ces biens communs. Mais effectivement, pas du tout d'autonomie énergétique au sens strict, ce qui était une surprise vraiment de ce terrain. Donc là, pour répondre à votre question, c'est vraiment mon vocabulaire à l'échelle collective. Parce que néanmoins, il me semble tout à fait que ça s'inscrit dans des processus d'autonomisation, mais où l'énergie n'est vraiment qu'un qu'un moyen parmi d'autres.
Bah donc, pour rebondir, donc comment est maintenu pratiquement les communs, enfin, comment ça se passe au plan des... Je ne sais pas s'il y a de la documentation, est-ce qu'il y a des mesures, enfin, comment ce projet d'autonomie politique par l'énergie, en tant que, justement, orienté autour des biens communs, des ressources naturelles, etc., comment est-ce que c'est aménagé comme un commun, comme, par quels moyens ça reste un commun, comment... Quel moyen c'est un commun
ou... Alors ça n'est pas un enjeu d'un point de vue théorique. C'est-à-dire que par exemple le vocabulaire commun n'est absolument pas présent dans le discours des acteurs. Là je fais les liens, mais ça n'est pas du tout. Et c'est de fait du coup une entrée par laquelle je ne suis pas non plus allée. Parce qu'il me semblait que ça ne faisait pas partie de l'outillage des gens et de la réflexion. Il y a plus une réflexion, oui, sur une réappropriation d'une ressource vitale au même titre que l'eau ou l'alimentation. Maintenant, cette réappropriation, elle s'organise essentiellement sous forme de coopératives, société civile, s'il s'agit des structures juridiques, c'est de cette manière que ça s'organise, mais il n'y a pas de réflexion sur les communs tels qu'ils pourraient dans les logiciels libres, etc. Là, on n'est pas du tout.
La transmission des modes d'emploi, de comment pratiquement ça se passe.
Des projets.
Qui sait réparer l'éolien ? Est-ce qu'il y a des modes d'emploi de réparation ? Des modes.
Il y a
des tutoriels, je ne sais pas. Enfin, pratiquement, comment ça se passe ?
Non, parce que c'est quand même un peu. Comment dire ? L'échelle est quand même assez grande. Donc, une centrale de méthanisation pour 800 habitants, ce n'est pas tout le monde qui va faire un peu de maintenance. C'est deux personnes, deux habitants du village qui ont été formés pour pouvoir se relayer à la maintenance de la méthanisation. Mais là, c'est possible parce que justement, ça reste des techniques simples. Donc quelqu'un qui n'était pas du tout de ce métier-là peut, via une formation technique, accéder à ce métier sans de longues études d'ingénierie. Donc c'est plutôt ce mode d'organisation qui a été fait. Pas une réparation, je dirais, collective, mais plutôt de quelques individus qui vont être formés de la même façon pour le tourisme.
Là, tu te prends sur ton temps. Hein.
Oui, je te laisse.
Juste une question envers cette présentation. Tu évoquais à un moment donné le monde agricole, mais je ne sais pas si c'est parti du monde pour travailler sur le monde agricole. Sur le rapport à la nature, et comment est-ce un rapport concret et direct à la nature, donc façonne aussi des savoirs d'un imaginaire, donc une relation d'influence pour reprendre l'air, donc une manière concrète d'agir, de produire, d'être en prise face à la nature. Or, là, juste une question, parce que bon, on connaît bien le monde de l'agriculture conventionnelle, et donc un rapport de plus en plus distant aussi à cette nature concrète, et de plus en plus, dire, par exemple, on considère facilement le sol comme un support, pas forcément comme quelque chose de vivant avec des processus biologiques, etc. Mais comment on arrive à, face à ce paradoxe, à savoir une agriculture conventionnelle qui se déterritorialise, c'est-à-dire de plus en plus, et qui est dans un rapport de plus en plus synthétique à la nature, et en même temps, donc, une socialisation, on va dire, aux énergies via l'éolien, et donc cette sensibilité à la météo, au vent, etc. Comment est-ce qu'on arrive à concilier, on va dire, ce rapport un peu paradoxal. D'un côté, on a des pratiques de plus en plus intensives avec, on se délie de plus en plus dans cette contrainte écologique, cette dépendance écologique, et d'un côté, en même temps, on retrouve un rapport concret à la nature via via les énergies renouvelables. Peut-être que ça dépend aussi
des agriculteurs. Oui, bien sûr. Bien sûr, et pour ceux que j'ai rencontrés, alors moi, il me semble, et c'est une position qu'on peut discuter, que justement, à travers ces énergies renouvelables, les agriculteurs ne retrouvent pas un lien, mais qu'ils ne l'ont jamais perdu. Qu'en fait, ce lien à la nature n'a jamais été perdu, je m'explique. Bien sûr, il y a l'agriculture intensive et cette technicisation des modes de production, mais il me semble que finalement, alors là encore, les agriculteurs, ceux que j'ai rencontrés, mais qui me semblent représenter une frange non négligeable de ce monde agricole, avec dans dans le paroxysme, oui, les agriculteurs céréaliers de la Beauce qui ont achevé et adhéré totalement au paradigme moderne, mais il me semble que ceux-là sont vraiment finalement une minorité et que le gros de la profession agricole finalement a certes adhéré pieds et poings liés à ces techniques d'intensification de l'agriculture, mais n'a jamais totalement adhéré à l'idéologie. Ce qui, pour moi, se révèle dans le fait que, justement, sur la même exploitation, ils mêlent tout un tas de pratiques, à la fois intensives et traditionnelles, et qu'on voit bien que ça a résisté. Alors, c'est discutable, mais il me semble que, justement, c'est peut-être ce travail au vivant qui fait que ça résiste. Et qu'on a beau essayer de manipuler la nature... Et bien, ça marche pas. Et on s'en rend compte quand on travaille avec le vivant. Et donc, il me semble que là, plus qu'ailleurs, cette idéologie de la modernité, elle a pas totalement prise. Enfin, je peux pas dire qu'elle n'est pas prise. Il y a bien sûr une intensification des productions. Mais ça a résisté. Et on le voit dans les pratiques. Et ça explique, selon moi, pourquoi les agriculteurs, plus que d'autres groupes socioprofessionnels, sont enclins et adoptent et développent les énergies renouvelables. Ça montre bien qu'ils s'inscrivent dans un autre rapport à la nature.
Juste un complément, est-ce qu'il y a plus d'éleveurs que de céréaliers ? C'est ce que je veux.
Oui.
Ok.